Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Bernard de Cotigny.
Troisième dimanche de carême et premier dimanche de Sede Vacante, pas d'Angélus le midi place Saint-Pierre, mais de nombreux touristes et pèlerins, nous sommes allés recueillir quelques impressions sur ce dimanche sans pape dans l'attente du conclave. Nous sommes en période de carême, Pax Christi International a organisé sa campagne 2013 sur le pain c'est la vie, afin de sensibiliser à la souffrance des communautés civiles syriennes. Et puis dans la seconde partie de ce magazine, l'invité du dimanche de Sœur Catherine Aubin est tout simplement providentiel. Giovanni Maria Vian est en effet le directeur de l'Osservatore Romano, le quotidien du Vatican. Étrange et beau dimanche, donc, que ce troisième dimanche de carême et premier dimanche de mars, Rome était inondée de lumière, fleurie par les mimosas et les amandiers, le jaune et le blanc, donc les couleurs même du Vatican. Étrange, cette place Saint-Pierre, noire de monde, une file interminable de pèlerins et touristes avançant tranquillement vers la basilique Saint-Pierre, lente progression, les yeux levés vers les fenêtres aux volets fermés des appartements pontificaux. Benoît XVI, il y a une semaine à midi, y récitait le dernier Angélus de son pontificat devant plus de 100 000 personnes, mais depuis jeudi soir, 20h, le siège apostolique est vacant. Benoît XVI a gagné le palais de Castel Gandolfo et les cardinaux confluent vers Rome pour les premières congrégations générales qui, dès lundi matin, réuniront les cardinaux électeurs de moins 80 ans et ceux qui ont dépassé cet âge. Se succédant tout au long de la semaine, elles permettront de mettre les questions sur la table et de mieux cerner le profil idéal du futur pape. C'est lors de ces congrégations que ce profil s'affine, car ne l'oublions pas, l'élection d'un pape durant le conclave n'est pas précédée par une campagne électorale menée par des cardinaux qui seraient candidats. Rien de tout cela. La place Saint-Pierre ce dimanche n'a donc pas résonné de la voix du pape, pas de catéchèse, mais jour après jour durant la semaine écoulée, celle des adieux, Benoît XVI nous a beaucoup parlé et ce dimanche nous pouvions donc méditer à la faveur d'une brève accalmie de la rumeur des médias. Antonino Gallofaro s'est rendu place Saint-Pierre. Reportage.
Il se dirige vers les colonnes pour sortir. Cette famille romaine, Francesco, Daniela et leur enfant dans sa poussette, est venue place Saint-Pierre exprès pour voir à quoi elle ressemble sans Angélus, sans pape. C'est une situation étrange, explique Francesco, pour lui qui est habitué chaque dimanche à voir le pape et à écouter l'Angélus. Et c'est bien ça l'attraction aujourd'hui, sentir cette journée dans laquelle il manque quelque chose. La place n'est pas pleine comme chaque dimanche, renchérit Daniela. La situation est donc particulière, elle fait un certain effet. Mais elle ne sait pas comment expliquer cette sensation. Pour elle, c'est une anomalie. Midi, l'heure à laquelle d'habitude le pape récite l'Angélus, Roberto sort tout juste de la basilique Saint-Pierre. Il s'attendait à la désolation, mais il a trouvé beaucoup d'activité de la part de la population catholique et beaucoup d'attentes. Il a été surpris par cette participation dans l'église. Il s'attendait à voir beaucoup de touristes, mais il a vu énormément de catholiques en train de prier dans la basilique. Et ça, c'est ce qui l'a frappé.
Il y a beaucoup de gens catholiques qui viennent en chiesa à prier. Ça m'a colpito abbastanza.
Sur la place, un groupe chante et danse. Filippo en fait partie, il vient de Catane en Sicile. Son pèlerinage l'a mené place Saint-Pierre aujourd'hui. Pour lui, ce n'est pas un dimanche quelconque. Il veut faire sentir qu'il est proche du Saint-Père parce qu'il est prêt à évangéliser et aujourd'hui est une étape importante. Le pape n'est plus là, mais lui et son groupe le sont. Derrière eux, une file interminable se presse toujours pour visiter la basilique Saint-Pierre.
La barque de l'Église n'est pas la mienne, n'est pas la nôtre, mais celle du Seigneur, il ne la laisse pas couler. C'est par ces mots que Benoît XVI s'est adressé à tous les fidèles du monde au terme de son pontificat le 28 février. Benoît XVI a voulu nous laisser cette pensée qui lui est chère. L'Église n'est pas une organisation, elle est un corps vivant, une communion de frères et de sœurs dans le corps de Jésus-Christ qui nous unit tous. C'est dans cet esprit que ce dimanche, au moment de l'Angélus à Rome et de par le monde, nous pouvions nous unir à la prière de toute la communauté chrétienne pour l'élection du prochain pape. Benoît XVI nous l'a demandé, il nous a demandé que l'on reste proche de lui dans la prière et qu'avec lui, on puisse prier aussi pour les cardinaux qui ces prochains jours se réuniront en conclave afin qu'ils soient totalement dociles à l'action de l'Esprit-Saint dans l'élection d'un nouveau pape et que le Seigneur leur montre celui qui est voulu par lui. Nous sommes donc en période de carême, un temps de préparation vers Pâques. Pax Christi International a organisé une campagne « Le pain, c'est la vie » pour ce carême 2013 afin de sensibiliser à la souffrance des communautés civiles syriennes. La population a parfois du mal à obtenir du pain entre attaques et bombardements des boulangeries et autres reventes de farine par les rebelles pour acheter des armes. José Henriquez, secrétaire général de Pax Christi International, nous présente cette campagne « Le pain, c'est la vie ».
Pour faire la campagne, nous avons fait la connexion entre des histoires que nous avons reçues où le pain n'est pas facilement disponible pour toutes les personnes. Plusieurs fois l'année passée, les forces armées gouvernementales ont bombardé, incendié diverses boulangeries, spécialement dans les provinces du nord où les combats sont beaucoup plus intenses. Mais plus récemment, des activistes des réseaux humanitaires de la Syrie ont dénoncé membres aussi de l'armée libre de Syrie qui vendent des réserves de farine de certaines régions pour se procurer des armes. Et quelquefois, les forces du gouvernement ou de l'armée libre arrivent aux boulangeries en pointant leurs fusils au l'air afin de passer avant tous les autres. Et alors, les gens n'ont plus le pain qu'ils ont besoin pour survivre. Nous voulons faire l'appel à la communauté internationale que les plus basiques besoins de la population civile doivent être respectés.
Pourquoi relier cette campagne quasiment humanitaire en Syrie avec le temps spécifique du carême ?
On peut voir la carême comme un temps de préparation pour la Pâques. Pour beaucoup de communautés, un temps de faire une réflexion pour montrer la solidarité avec les autres. La situation du besoin de pain en Syrie et le jeûne chrétien comme une forme de solidarité, nous avons pensé qu'il était une connexion qui pourrait être utile pour sensibiliser les gens.
Concrètement, comment le fait de jeûner peut aider la communauté syrienne ?
Nous avons demandé les personnes qui veulent jeûner en solidarité avec la Syrie de nous envoyer le message de solidarité et nous sommes en contact avec des communautés en Syrie. Les messages que nous avons reçus, nous les transmettons. Ce n'est pas la nourriture qu'elle peut avoir besoin maintenant, mais on a reçu des remerciements du peuple de la Syrie pour le fait d'être en pensant sur la situation qu'ils souffrent maintenant.
Des propos recueillis par Jean-Baptiste Cocagne. Et retrouvons à présent Sœur Catherine Aubin et son invité du dimanche, l'homme de la situation, serais-je tenté de dire, providentiel même, en ce premier dimanche de vacances du siège apostolique. L'invité est en effet Giovanni Maria Vian, l'actuel directeur du quotidien L'Osservatore Romano, édité par le Saint-Siège, où il a été nommé par Benoît XVI en 2007. Il est historien et journaliste spécialiste de Saint Athanase d'Alexandrie, philologue et familier de plusieurs papes. Interrogé par Catherine Aubin, Giovanni Maria Vian nous explique la vocation de ce journal unique en son genre et partage bien sûr ses impressions sur les deux dernières semaines exceptionnelles du pontificat de Benoît XVI.
Jean-Marie Vian, vous êtes directeur de l'Osservatore Romano depuis 2007. Vous avez dit, quand vous avez pris la direction de l'Osservatore Romano, vous avez été nommé par Benoît XVI, que vous ne cherchiez pas la polémique dans votre journal. Vous pouvez nous dire un peu comment vous concevez votre métier de journaliste et d'historien pour l'Osservatore Romano?
Oui, c'est-à-dire historien maintenant, c'est un peu oublié. L'Osservatore Romano, c'est un journal assez spécial qui n'enregistre pas seulement les événements du monde, mais aussi constitue une partie de ces événements en tant que c'est l'unique journal du Saint-Siège. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que ça démontre la sensibilité de l'Église de Rome pour la communication, que c'est tout à fait cohérente avec la tradition chrétienne. La tradition chrétienne, c'est impensable sans la communication. C'est très clair en pensant au fait que un des plus importants noms de notre Seigneur, c'est Logos, la parole. Alors, la parole, c'est communication en soi-même.
Ces relations.
ces relations, la Trinité même. Historiquement, la tradition chrétienne a toujours été très attentive à la communication, au point qu'on pourrait dire, en utilisant les mots de Paul VI devant les Nations Unies, l'Église est experte en communication, en tant qu'elle est experte en humanité.
Finalement, lorsqu'on vous entend, Jean-Marie Vianne, votre perspective dans le journal Observatore Romano, c'est une perspective qui rejoint des profondeurs à la fois spirituelles et théologiques et en même temps historiques.
On cherche, mais on cherche de garder aussi l'actualité. Avec, c'est Montini encore qui le disait, une fraternité des rapports et des langages. C'est pour ça que c'est mieux convaincre que vaincre, surmonter la polémique ou plutôt entendre la polémique quand elle est nécessaire pour défendre de quelque façon la vérité, parce que la vérité en réalité elle se défend soi-même. Mais le faire avec la persuasion sans blesser personne. C'est mieux, c'est dans la tradition de l'Osservatore Romano en plus, parce que vous savez, c'est un journal qui est né de quelque façon contre l'unité italienne, mais l'Osservatore Romano a pleuré la mort du roi, qui était quand même catholique, qui avait chassé Pinef du Quirinal. Quand on a célébré le 150e anniversaire de l'unité italienne, nous l'avons célébrer avec une telle conviction que nous sommes été cités, nous, uniquement par le président de la République italienne, M. Giorgio Napolitano, quand il a clos cette célébration.
Jean-Marie Vianne, vous avez employé un mot tout à fait étonnant, la fraternité. Fraternité des rapports entre la parole et la communication.
Oui, c'est une expression du cardinal Montini qui, pour les centenaires du quotidien, a dit que l'Osservatore Romano a à lui comme attitude cette fraternité des langages et des rapports. Cherche l'amitié pour montrer les visages humains de l'Église.
Est-ce que cela fait partie aussi de cette nouveauté d'inclure un encart chaque mois sur les femmes dans l'Église, les femmes dans le monde?
Oui, c'est ça. Ça vient de la volonté même de Benoît XVI. C'est l'idée, c'est deux éditorialistes ont eu l'idée de lancer cette mensuelle qu'on peut lire aussi en français sur les sites du journal pour montrer la richesse de la dimension féminine dans l'Église. Et juste le 2 mars, c'est-à-dire des jours après la fin du pontificat, a publié un édito de Mme Scarafia pour dire merci au pape Benoît. Quand j'ai vu les papes pour les saluer, c'était après la grande audience générale, je lui dis que les femmes de l'Osservatore le remerciaient, avait beaucoup d'affection pour lui. Alors le pape, très gentiment, a dit qu'il saluait les journaux, en particulier les femmes.
Jean-Marie Vianne, nous avons entendu la catéchèse de la dernière audience générale de Benoît XVI, et dans son audience, il emploie des termes, on peut dire, entre guillemets, féminins. « Mon cœur, mon âme s'agrandit pour embrasser toute l'Église répandue dans le monde. » Et il fait allusion aussi dans le deuxième paragraphe de sa catéchèse, « Je me sens de porter tous dans la prière, dans un présent qui est celui de Dieu, où je recueille chaque rencontre, chaque voyage, chaque visite pastorale. » Puis à la fin, il va redire aussi, « Je suis tout à tous, finalement je reste pape d'une autre manière. » Pouvez-vous nous dire comment cet aspect un peu caché de Benoît XVI, de ces mots très très particuliers, il a employé très souvent le mot de cœur.
Oui, Benoît XVI, comme avant Joseph Ratzinger, est un homme de la tradition, qui connaît la tradition chrétienne très profondément et sait que la tradition, c'est une réalité dynamique, ouverte à l'avenir. Il sait prendre de ses patrimoines énormes le vieux et le nouveau pour les transmettre aux générations, avec une confiance énorme dans l'avenir qui est l'avenir de Dieu. Le 8 février, il a visité les séminaires romains. Et comme d'habitude, le pape a fait lire quelques versets de l'Écriture. C'était le début de la première lettre de Pierre, duquel il est successeur. Et après, il a parlé 26 minutes. Il n'avait pas une note. Il a parlé en italien admirablement de l'histoire de l'Église, du début jusqu'à nos jours. Et il a dit, l'Église meurt à cause des péchés des hommes. Et là, c'est évident, toute la souffrance de l'Église que le pape a pris sur ses épaules. Mais il a dit, mais l'Église se renouvelle chaque jour. Et il a répété deux fois, il est très attentif aux mots, c'est un homme qui a les dons des mots, l'avenir est notre, l'avenir est notre, l'avenir est de Dieu. Alors là, vous voyez, cette souci de transmettre ces grands dons qui est la foi dans un monde qui semble plutôt l'oublier. Et lui, il l'a fait dans cette 8 années de pontificat d'une façon absolument nouvelle, c'est-à-dire avec des mots que tous peuvent entendre. Le pape Benoît n'a jamais utilisé un jargon ecclésiastique. Il a parlé la langue des femmes et des hommes de notre temps. Et là, je vois qu'il est très proche de son prédécesseur qui l'a créé, cardinal Paul VI, lequel, lors de sa première rencontre avec Jean Guiton, réfléchissait et disait « Oui, qu'est-ce qu'il sert de dire la vérité si les hommes de notre temps ne nous comprennent pas ?» Alors là, la nécessité d'une communication claire. Et c'est intéressant que dans le grand discours du dernier mercredi avec les fidèles et le monde en réalité, le pape a remercié les représentants du corps diplomatique, c'est-à-dire du monde, et ceux qui travaillent dans la communication, la bonne communication, il a dit. Bonne, c'est-à-dire une communication qui bâtit plutôt que de détruire.
Par certains observateurs, Benoît XVI est apparu traditionnel, alors que le geste qu'il vient de poser, comme vous venez de le souligner, est un geste tout à fait nouveau. Quelle cohérence y a-t-il dans ce geste?
Oui, je pense une cohérence parfaite. Vous avez bien dit que c'est traditionnel et pas traditionaliste, parce que, je répète, la tradition pour Benoît XVI, c'est une réalité dynamique qui ne s'arrête pas à une certaine date, mais qui continue. Dans la tradition, ce n'est pas la première fois qu'un pape renonce au pontificat. Il y a une douzaine d'exemples, mais aucun de ces exemples est comparable à celui de Benoît XVI, parce que ce sont des exemples assez anciens et ont été toujours des renonciations obligé dans des situations dramatiques ou tragiques. Maintenant, le pape a renoncé dans une situation relativement tranquille, avoir réfléchi plusieurs fois. « Iterum et iterum », il a dit en latin. Quand il a fait sa déclaration, il a voulu faire, selon les droits, publiquement, devant les cardinaux qui étaient appelés pour un consistoire normal, devant d'autres prélats, c'est-à-dire publiquement, en soulignant qu'il faisait plena libertate, en pleine liberté. Et c'est lui-même qui a composé son texte en latin, qui est très clair, en soulignant la gravité et la nouveauté de ce geste, mais qui est un geste qui n'a pas changé sa sérénité et la paix de cœur. C'est un homme visiblement heureux, parce qu'il vit dans la lumière de Dieu. Ça, c'est évident. Je me souviens que quand il était élu, j'étais dans un hôpital romain, j'attendais une visite. Il y avait deux femmes qui bavardaient, des femmes assez âgées, très simples, qui bavardaient autour du nouvel pape. Mais qui est, tu sais, qui est, je ne sais pas, un Allemand, enfin, si, on ne les connaît pas. Mais tu sais, j'ai vu ses yeux. Il a des yeux bons. C'est-à-dire que c'est un visage qui laisse transparaître la beauté et l'amour de Dieu.
Voilà, nous sommes au terme de ce magazine. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur internet www.radiovaticana.va, mais aussi sur Facebook en cherchant Radio Vatican en français, sans oublier les applis en français de Radio Vatican pour les téléphones portables. Ainsi prend fin ce magazine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, où que vous soyez.